Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les élections législatives organisées le 15 mai prochain au Liban, une annonce ce lundi des autorités. Les sénatoriales, le 5 février prochain en Algérie, Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, évoquera le mode de scrutin mais aussi le rôle du président de cette haute assemblée. Trois fédérations musulmanes en France ont annoncé samedi leur décision de signer la charte des principes de l'islam de France, ce dont se réjouit le Conseil français du culte musulman. Une nouvelle interdiction pour les femmes. En Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de voyager seules sur des distances relativement longues. Après la fête de Noël samedi dernier, regard dans votre édition sur les chrétiens de Gaza avec le professeur de médecine Christophe Oberlin, auteur de Chrétiens de Gaza aux éditions Éric Bonnier. Il sera l'un de nos invités. Il est soupçonné d'avoir fourni des matériels à l'armée syrienne, dont des composants pouvant servir à la fabrication d'armes chimiques. Un franco-syrien à la tête d'une compagnie de navigation a été inculpé en France et incarcéré. Un nouveau conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 en France. Une réunion avant l'adoption par le Conseil des ministres du projet de loi qui instaure le pass vaccinal. Les élections législatives au Liban sont prévues le 15 mai prochain. Le ministre libanais de l'Intérieur a signé ce lundi le décret de convocation du collège électoral. Le vote de la diaspora libanaise aura lieu les 6 et 8 mai prochains en fonction de leur pays de résidence. Le Parlement libanais s'était prononcé en octobre dernier pour la tenue de législatives anticipées le 27 mars prochain. Des élections sénatoriales à venir en Algérie. Ce sera le 5 février, le scrutin pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation. La chambre haute du Parlement. La haute assemblée est composée de 144 membres, dont 96 sont élus au suffrage indirect parmi les élus au niveau des assemblées populaires des wilayas pour un mandat de 6 ans. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, revient notamment sur ce mode de scrutin.
C'est un système donc indirect, l'élection se fait donc au niveau local, c'est-à-dire c'est les élus locaux, ceux des wilayas. Et des wilayas en Algérie, il y a 58 wilayas, les wilayas en Algérie, c'est les départements, et également des 1541 communes, qui sont donc les communes dépendantes de chaque wilaya. Chaque wilaya a un nombre limité de nombre de communes. Cette élection se fera par les élus locaux, qui doivent désigner des candidats qui se présentent localement, des candidats de plusieurs partis. J'imagine il y aura le FLN, Front de Libération Nationale, qui a, si vous voulez, gagner les élections législatives dernières. Il y a aussi les élections locales aussi, il y a le Rassemblement National Démocratique, le parti, le mouvement de la société pour la paix, le mouvement Albina, le mouvement Al-Mustaqbel, le Front des Forces Socialistes et d'autres partis. Donc les candidats de ces partis au niveau local doivent être élus, obtenir le maximum de voix des élus locaux pour être donc désignés au Conseil de la Nation.
Et le président du Conseil de la Nation a un rôle particulièrement important, notamment en cas d'empêchement du président de la République.
Oui, déjà on a eu ce cas par le passé après la démission du président Bouteflika en avril 2019. Il a été remplacé par Abdelkader Bensalah, qui était à l'époque président du Conseil de la Nation. Et dans le système de l'État algérien, le président du Conseil de la Nation, c'est le deuxième personnage de l'État. Ce n'est pas celui de la Chambre basse. Celui de la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale APN, est le troisième personnage. Le quatrième, c'est le président de la Cour constitutionnelle, et le cinquième, c'est le Premier ministre. Et donc, dans le cas, effectivement, d'empêchement pour cause de maladie ou pour cause de décès, le président du Conseil de la Nation remplace le chef de l'État, qui n'est pas donc en mesure de diriger le pays. Sa disposition est prévue dans la Constitution, qui a été longuement d'ailleurs discutée après la démission du président de Bouteflika, après le mouvement de contestation populaire en avril 2019. Et donc, le président du Conseil de la Nation, qui n'a pas le droit de se présenter quand candidat à l'élection qui suivra, c'est-à-dire l'élection anticipée après un cas d'empêchement. Il doit gérer le pays pendant 90 jours et durant cette période de 90 jours, les élections présidentielles anticipées doivent être organisées. Donc c'est un personnage effectivement qui peut jouer un rôle important dans le cas d'empêchement du président. Et parfois, le chef de l'État même en exercice peut déléguer le président du Conseil de la Nation pour le représenter dans des manifestations à l'étranger ou à l'intérieur du pays.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le soutien historique constant de l'Algérie a contribué à l'amélioration des capacités scientifiques du peuple palestinien. Voilà ce qu'indique le ministre palestinien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mahmoud Moussa Ahmed Abou Mouiss s'est ainsi exprimé depuis Alger. Les opposants au pouvoir militaire issus du coup d'État au Soudan continuent de défier les putschistes des dizaines de milliers de Soudanais ont de nouveau essuyé des tirs, des grenades lacrymogènes au Soudan samedi. La foule était parvenue aux portes du palais présidentiel de Khartoum où siègent les autorités de transition. Elle a été dispersée sous les coups des charges policières. Les autorités avaient une nouvelle fois coupé les communications après 2 mois d'une répression qui a fait près d'une cinquantaine de morts. Une nouvelle interdiction pour les femmes en Afghanistan. Les femmes n'ont plus le droit de voyager seules sur des distances relativement longues, 72 kilomètres. Elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille proche, une annonce des talibans, une mesure publiée par le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est son nom. Cette directive arrive quelques semaines après la demande du ministère aux télévisions afghanes de ne plus diffuser de feuilletons et séries dans lesquelles des femmes apparaissent. Il est soupçonné d'avoir fourni des matériels à l'armée syrienne, dont des composants pouvant servir à la fabrication d'armes chimiques. Un franco-syrien à la tête d'une compagnie de navigation a été inculpé en France et incarcéré. C'est la première fois qu'une inculpation intervient dans une enquête en France sur des soupçons de soutien à l'armée syrienne. Les faits qui lui sont reprochés ont débuté en mars 2011, au début de la guerre en Syrie, et se seraient poursuivis jusqu'en janvier 2018 ou juin 2019, selon les crimes visés. Une découverte macabre sur la côte ouest libyenne. Les corps sans vie de 28 exilés ont été trouvés après le naufrage de leur embarcation. Les équipes du Croissant Rouge ont retrouvé 3 survivants. Ce drame survient quelques jours après l'annonce de la mort de 160 migrants en une semaine après le naufrage de leur embarcation, là aussi au large de la côte ouest libyenne. Gros plan sur les chrétiens de la bande de Gaza au surlendemain de la fête de Noël. Ils représenteraient entre 1500 et 2000 personnes. Le professeur de médecine, Christophe Oberlin, est allé à leur rencontre au fil de ses séjours dans la bande de Gaza. Il est notamment l'auteur de « Chrétiens de Gaza » aux éditions Éric Bonnier. Entretien avec Christophe Oberlin.
Cette présence, elle remonte au premier temps du christianisme, avec une christianisation d'ailleurs qui s'est pas faite directement à partir de Jérusalem, qui est pourtant seulement à 80 kilomètres. Mais il y a eu les guerres romaines qui ont véritablement détruit toutes ces populations. Et il y a une re-christianisation qui s'est passée essentiellement à partir de l'Égypte, à partir de l'église d'Alexandrie. Donc c'est vers le 2e, 3e et 4e siècle surtout que le christianisme a connu son efflorescence à Gaza.
Les chrétiens qui sont restés majoritaires pendant 5 siècles après l'arrivée de l'islam?
Alors ça c'est un point très intéressant qui montre bien qu'il ne s'agit même pas d'une coexistence entre chrétiens et musulmans, il y a un véritable mélange qui dure jusqu'aujourd'hui, mais il y a eu effectivement cette vie commune pendant 5 siècles, et puis il y a eu le choc des croisades, et le choc des croisades a été fatal, si on peut dire. Il en reste néanmoins des vestiges, et notamment monumentaux, puisque la plus ancienne des mosquées de Gaza, au cœur de la vieille ville, est une ancienne cathédrale croisée.
Donc cette présence chrétienne à Gaza, elle se traduit même dans la pierre.
Elle se traduit dans la pierre et elle se traduit dans le sous-sol. Vous savez qu'à Gaza, on creuse beaucoup, et notamment parce qu'il y a une population importante, 2 millions d'habitants, une très forte densité. Et à chaque fois qu'on donne un coup de pelle dans le sable de Gaza, on trouve des vestiges. On est toujours à la recherche de certains vestiges qui ont des mentions historiques, et on en trouvera aussi également dans la mer, on a retrouvé des éléments importants. Donc c'est un paradis, la bande de Gaza pour l'archéologie, ça devrait être.
Il existe des figures, des personnages mythiques chrétiens à Gaza?
Alors il en existe un certain nombre. Le plus important, c'est Hilarion. Hilarion a fondé véritablement la vie monastique au Proche-Orient, et son monastère a été identifié, retrouvé, et notamment par Jean-Baptiste Imbert, qui est un chercheur dominicain de l'Institut archéologique et biblique de Jérusalem. Et donc il existe des vestiges vraiment importants que l'on peut aujourd'hui visiter, qui sont mis à l'honneur, il faut le dire, par l'administration actuelle, qui n'est pas une administration chrétienne, entre guillemets, mais qui en tout cas est très attachée à tout son passé, y compris le passé anti-islamique.
Hilarion qui avait pour maître Saint-Antoine, et justement cette cohabitation aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans à Gaza, vous dites qu'elle est encouragée par l'administration aujourd'hui, cette administration dirigée par le Hamas ?
Oui, alors d'abord, il n'y a pas une communauté chrétienne, il y en a plusieurs, puisqu'on retrouve finalement à Gaza toutes les branches de l'arbre généalogique du christianisme. 90% des chrétiens sont des orthodoxes, et donc il y a à peu près 10% de latins, donc c'est une liturgie différente, c'est des moments de célébration différentes, des fêtes différentes. Bien entendu, il y a des communications entre tout cela, mais en tout cas, il y a une communication complète avec ce qu'on peut appeler la communauté musulmane, y compris les autorités politiques. D'ailleurs, j'étais en communication ce matin avec un ami qui s'appelle Jamil Tarazi, qui est un chirurgien de Gaza, chirurgien comme moi, on s'est connu là-bas. Eh bien, il fait partie des 9 membres du conseil municipal actuel de la ville de Gaza. Donc, il n'y a aucune antinomie, et je dirais même que à l'occasion du travail que j'avais pu faire sur cette communauté chrétienne, plusieurs fois on m'a dit « mais nous sommes en sécurité encore plus que les autres » parce que les autorités savent bien que si on touche un cheveu d'un chrétien à Gaza, tout l'Occident va s'enflammer. Donc il y a véritablement une solidarité totale.
Donc vous nous dites qu'ils sont protégés. Combien sont-ils aujourd'hui ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a ceux qui s'en vont, il y a les naissances, il y a une immigration interne, certains chrétiens cherchant à se rapprocher des lieux saints, car le passage, la question des permis par Israël pour aller sur les lieux saints est un véritable casse-tête. Certains émigrent, c'est même le principal lieu d'émigration, vers la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'ils vont de Palestine en Palestine. Globalement, on pense qu'ils sont 1500 environ, donc 9 sur 10 étant des orthodoxes. Il y a un espèce de renouveau de l'Église latine, et notamment à travers des écoles qui se sont largement développées depuis 1994.
Il existe des écoles chrétiennes aujourd'hui à Gaza ?
Il y a 3 ou 4 écoles chrétiennes. Ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que 90% des élèves et autant le même pourcentage des enseignants sont des musulmans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des écoles réservées aux chrétiens avec des enseignants chrétiens. Je dirais que seule la tête est chrétienne. C'est un petit peu, ce sont des écoles privées, payantes. Bon, il y a des bourses, il y a tout ce qu'on veut. Elles sont aidées par des communautés chrétiennes de par le monde. Mais il n'y a aucune ségrégation et en particulier la génération des gens 50-60 ans, par exemple, avant que ces écoles ne connaissent le développement actuel, eh bien, a été entièrement formé dans les écoles gouvernementales, dans les écoles publiques. Et aujourd'hui, il y a des passerelles, certaines filières existant à l'école chrétienne et d'autres uniquement dans les écoles gouvernementales. Donc, il y a un mélange.
Il existe une solidarité des chrétiens vis-à-vis des autres composantes de la population gazaoui et vis-à-vis des musulmans ?
Il existe une solidarité totale. Il y a par exemple un hôpital qui est un hôpital initialement anglican et puis qui a été repris par les baptistes et qui soigne des musulmans. Vous voyez, tout ça est complètement mélangé. Il y a une solidarité au moment des coups durs, au moment des attaques israéliennes. Eh bien, il y a eu jusqu'à 1500 personnes qui se sont réfugiées dans la principale église de Gaza en se disant qu'elle ne serait peut-être pas bombardée. Vous voyez, donc, il y a des tas d'exemples de solidarité, des repas, des hébergements. Et on peut remarquer qu'au cours des différentes guerres, eh bien, le nombre de chrétiens tués correspond exactement à la proportion des chrétiens dans la population. Non, il n'y a pas de différence. Quand vous posez la question dans un lycée de 1000 élèves aux enseignants, où ils sont une trentaine, combien il y a de chrétiens parmi vous, ils sont obligés de se regarder, de compter sur les doigts, c'est-à-dire qu'ils se côtoient tous les jours sans se voir comme chrétien ou musulman, mais uniquement comme enseignant.
Le professeur de médecine Christophe Oberlin, auteur de Chrétiens de Gaza aux éditions Éric Bonnier. 3 fédérations musulmanes en France ont annoncé samedi leur décision de signer la charte des principes de l'islam de France. Les fédérations turques du comité de coordination des musulmans turcs de France et Miligorus, ainsi que le mouvement Foi et Pratique. Cette charte réclamée par l'exécutif proscrit l'ingérence d'états étrangers et réaffirme notamment la compatibilité de l'islam avec la République République française ou encore l'égalité homme-femme. Le Conseil français du culte musulman s'est réjoui de la décision de ces fédérations. Une œuvre en hommage aux victimes algériennes du 17 octobre 1961 a été dégradée à Ivry, près de Paris. Il y a deux mois, à l'occasion des 60 ans du massacre des manifestants algériens, un artiste avait peint au pochoir sur un mur de garage un portrait d'une des victimes. C'était cet après-midi, un nouveau conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19, une réunion avant l'adoption par le Conseil des ministres du projet de loi instaurant le pass vaccinal. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, ce texte sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier. Sa mise en œuvre est prévue dès le 15 janvier prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 19h et 23h, l'invité de Pluriel et Florentin Letissier, élu écologiste du 14e arrondissement de Paris, maire adjoint de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la trajectoire zéro déchet, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.